Paulette Riding High sur l'album Invasion of the Booty Snatchers. Alors pourquoi on vous passe du Paulette? Alors parce que si vous comprenez l'anglais, je parle du point de vue lecture, et que si vous aimez le P-Funk, il y a un livre qu'on ne saurait trop vous conseiller, c'est le Mothership Connected par Seth Neblett. Donc ça vient de sortir, hein, donc 30 septembre 2025. C'est un bouquin qui était annoncé depuis des années et des années, donc sur les groupes féminins de la galaxie P-Funk, donc Paulette et Brides of Frankenstein. Et c'est surtout sur l'envers du décor au sein de la galaxie P-Funk. Et honnêtement, c'est, j'ai envie de dire, c'est déprimant. C'est déprimant parce que on voit que comment. La carrière de ce groupe, donc Paulette, a été tuée dans l'œuf à cause de la jalousie, des manipulations d'un certain George Clinton. Donc, on en parlera beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, c'est dans une autre émission, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on vous avait déjà parlé du bouquin de Dawn Silva, donc Queen of Funk. Là, c'est voilà, ça enfonce le clou. Donc, Paulette Riding High, donc Invasion of the Booty Snatchers, c'est le second album. Donc avec, alors, Seth Neblett, c'est le fils de Malia Franklin, donc qui est la chanteuse principale, donc de Paulette, qui a quitté le groupe donc après cet album-là, qui était sorti en 79, donc après Invasion of the Booty Snatchers. Et le premier album, c'est Pleasure Principle, sorti en 78, ça a été réédité. Voilà, donc on vous conseille tout ça, donc écoutez du Paulette, écoutez du Brides of Frankenstein, et surtout, méfiez-vous de tout ce que George Clinton peut dire. Alors, le sujet, c'est Les héros du peuple sont immortels, donc la BD de Stéphane Loiret sur Caméra Silence. Et on va en profiter pour passer un groupe un groupe qui s'est reformé alors que, alors on verra à la fin de l'interview, Caméra Silence aurait pu se reformer, mais ça n'a pas eu lieu et pour cause. Donc ce groupe s'est reformé et j'ai envie de dire avec un autre chanteur et j'ai envie de dire c'est pas du tout la même chose. Moi, je désapprouve. En tout cas, in their prime, comme on dit, hein, donc dans les premiers temps, ce groupe, c'était quelque chose. We'll be right back. C'était bien sûr les Sex Pistols avec Only Days in the Sun. Et on va écouter maintenant un morceau qui, bien entendu, a un lien avec la bande dessinée, à condition de le retrouver. C'était donc OTH, l'école de la rue, donc qui abordait dans la bande dessinée Les héros du peuple sont immortels, donc de Stéphane Guary. Et cette PD part d'un groupe bordelais qu'il est peut-être temps d'écouter maintenant. Écoutons Caméra Silence avec allez, peut-être un ou deux morceaux à la suite. On commence par Histoire d'un soir, donc morceau joué en concert, mais jamais enregistré, en tout cas du vivant du groupe. Caméra Silence, Histoire d'un soir. Caméra Silence, Histoire d'un soir, donc morceau extrait du concert au Chaos Festival, donc du 20 octobre 1984, où il y avait Trotskids, où il y avait Kidnap, où il y avait Reich Orgasm, où il y avait Comité Insect, où il y avait les collabos, où il y avait aussi les Subkids et bien sûr Caméra Silence, donc festival qui a eu lieu à Orléans. Et festival où se sont illustrés, on va dire, des skinheads qui avaient quelques soucis avec le bras, on va dire ça comme ça. Il y avait des gens liés à Tolbiactos, donc qui ont causé pas mal de tracas, puisqu'ils veulent tabasser les punks qui étaient venus assister au concert. Et voilà, enfin, c'était pas une très bonne ambiance. Un autre morceau de caméra, réalité version démo. Donc version
to help young people with
version démo donc de réalité par caméra silence à l'époque où Gilles était encore à la basse et au chant. Donc démo 83 de réalité et c'est sorti en vinyle donc chez chez Danazy Records, donc le label de David Berry. On vous passera aussi quelques morceaux quand même liés à au label de David, notamment Kidnap, parce qu'il y a une photo, comment dire, il y a une photo, donc, enfin une photo, un dessin de la BD qui rappelle à la fois Kidnap et à la fois Caméra Silence. Voilà, pour ceux qui ont la BD, ils sauront de ce quoi il s'agit de grillage en fonction, avec des hexagones. Voilà. Écoutons peut-être Gilles avant de passer à la suite de l'interview. Ou un autre morceau de caméra. Allez, un autre morceau de caméra.
Histoire particulière. Belle et heureuse année à tous à l'écoute des histoires particulières concoctées chaque week-end par les producteurs et réalisateurs, tous prêts à dégainer des histoires les plus singulières qui soient. Voici la première de 2019. Dans les années 1850, pendant la ruée vers l'or, un nombre important de bandits organisaient des braquages de wagons cargo qui passaient les différentes frontières des États-Unis. Perry Brink va créer sa modeste entreprise personnelle, la Brink's City Express, en achetant un chariot pour effectuer des transports de biens, de bagages et de marchandises dans les limites de la ville de Chicago. En 30 ans, la société Brink's est passée d'un cheval avec un chariot à 170 chevaux et 85 chariots. En parallèle, la population de Chicago explose. 500 000 habitants en 1880, plus d'1 700 000 en 1990. Cette population galopante, non contrôlée, crée des noyaux de criminalité dans toute la ville avec la formation de groupes de gangsters organisés. Le 28 août 1917, Brink's va vivre son premier cambriolage. Aujourd'hui, c'est Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire qui vous racontent tout sur l'attaque du premier dépôt de la Brink's en France.
Bonsoir. Hold up avec prise d'otage la nuit dernière à Toulouse, montant du butin 15 millions de francs. Une nouvelle fois, c'est la société de transport de fonds Brink's qui a été prise pour cible. Un gang particulièrement bien organisé qui a procédé tranquillement, tout d'abord au domicile d'un cadre de la société et ensuite au dépôt de la Brink's.
Je regrette. Je regrette les violences, surtout. Une attaque à main armée, c'est extrêmement violent. Même s'il n'y a pas de coup de feu, mais même s'il n'y a pas de blessés, pas de fusillade, etc., c'est de toute façon violent. Vous arrivez chez les gens, vous leur foutez un flingue sur la tempe, bon, voilà, c'est terrible. J'aimerais pas qu'on me le fasse maintenant, ni à personne de ma famille. Il fallait quand même faire le boulot, quoi. En évitant la catastrophe. Voilà, c'est tout ce qui comptait, quoi.
Bertin, une vie en sursis. Première partie, les années punk, drogue and Brink's. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire.
T'es là à te branler et le temps passe en vain, à t'imbiber de noirs dessins. T'es là à poireauter dans ces journées sans fin, à digérer là ton destin. Car aujourd'hui comme demain, toujours le même refrain, la réalité, même refrain et même couplet. Toujours là à te faire chier, etc., etc., etc.
C'est surtout Gilles. Voilà. Bah après, on avait un petit regard. Tout le monde avait un petit regard. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait quelques petites phrases, des petits mots, tout ça. On en parlait. Hein. En réalité, c'était vraiment ce qu'on vivait. Et ça a été le nom de l'album aussi, ouais. Dans une journée sans fin, c'est le brouillard, c'est incertain. Encore la même histoire. Ouais, ça parle de la dope, quoi. Quasiment tout le texte, hein, en fait.
Gilbertin, octobre 2018.
Oui, t'es là, te branler, le temps passe en vain, t'es imbibé de noir dessin. Oui, c'est assez noir, c'est assez... Je me rends compte avec le temps que c'était extrêmement, à la limite, sinistre, quoi, ce qu'on écrivait. J'ai du mal à me reconnaître là-dedans, mais bon. On se rend compte à quel point on était pessimiste quoi, à l'époque.
En fait, tous les textes étaient assez sombres.
Hein. Benoît Destriau.
Là, je parle du côté noir, sombre, sordide et tout ça, mais faut voir qu'on était jeunes, qu'on était des bandes de petits cons qui faisaient n'importe quoi aussi. Hein. C'était à celui qui faisait la plus belle connerie. Hein.
Gilbertin et Benoît Destriau, les enfants du rock. 1983.
La réalité, c'est tout.
J'ai marre d'entendre dire le punk c'est ringard, etc. Alors qu'on écoute à longueur de journée.
De manière, ça passe pas le jour. C'est beaucoup plus subversif qu'en 77. Parce qu'on en entend plus parler et pourtant il y a vachement de punk là, peut-être plus qu'en 77. En France, je pense qu'il y a peut-être il y a 4 fois plus de groupes qu'en 77. Ça fleurit partout. Et personne n'en parle, bon, mais ça fait rien. De toute manière, ça se passera quand même parce que. Ouais.
Je suis Benoît qui jouait. Dans Caméra Silence avec Gilles dans les années 80. Voilà. Au début, le groupe, c'était 3 personnes. C'était Gilles, Philippe Lechenet et moi. On a habité ensemble, Gilles et moi, dans un petit appart. Et puis, on a décidé de monter un groupe. Et c'est en bouquinant un bouquin sur la bande Abadère qu'on a trouvé le nom Caméra Silence.
Voilà, donc ça, c'est extrait d'une émission de France Culture sur donc Gilbertin, ça s'appelle Gilbertin, une vie en sursis, donc deux parties, les années punk, drogue et Brinks, et ensuite je pense que c'est la cavale, donc c'est la série Une histoire particulière, donc c'était un documentaire sur différents thèmes, voilà, donc c'est sur France Culture, ça a été fait en janvier 2019, sachant que le bouquin était sorti je crois en 2018, de mémoire ou 2016 je sais plus non 2002 enfin je sais plus donc le bouquin de Gilbertin qui a fourni la matière donc à la bande dessinée Les héros du peuple sont immortels donc là vous avez pu entendre les voix de Gilbertin donc basse chant puis ensuite chant et donc Benoît Destriau guitare donc les deux fondateurs de Caméra Silence. Et nous, on va passer maintenant à un groupe de Strasbourg qui s'appelle, de mémoire, Alice et les Pickpockets. Donc un groupe des années 80, c'est par rapport à l'interview donc, de Stéphane Houari, puisqu'il a vécu une partie de sa jeunesse à Strasbourg. Alice et les Pickpockets, Sidéral Girl, c'est le seul enregistrement de ce groupe.
Bye.
C'est très court. Hein. Alice et Pickpocket, donc Cinderella Girls. Et place à Stéphane Houari.
En fait, Nantes, je n'ai pas vraiment traîné dans cette scène-là qui était pas très vivante hein, d'ailleurs, parce que Nantes, moi, jusqu'en... je suis parti en 88, c'était quand même un peu endormi. Hein. Ce qui se passait, c'était plutôt à Rennes. Ou... Nantes, ça a commencé à devenir intéressant, Nantes, après que je sois parti. Moi, disons que j'écoutais du punk à la radio, sur une radio à Nantes, dont j'ai oublié le nom, souvent, qui retransmettait un peu les concerts qu'il y avait au Floride. Donc il y avait, toutes les choses. Mais le groupe, finalement, que j'ai pu côtoyer, c'est parce que j'avais un copain qui les connaissait alors qu'on était au lycée. C'était un groupe qui s'appelait Picasso y los Simios. Et un groupe plutôt new wave, mais assez marrant, assez énervé aussi. Donc j'étais à Nantes au moment où ce groupe-là était assez actif. Et c'est plutôt à Strasbourg où là, pour le coup.
Alors, j'ai envie d'écouter de vous faire écouter surtout un extrait de concert au Floride. Donc un groupe, j'étais à ce concert. Donc il s'agit de Nabat. Et alors on va chercher ça. Ne vous inquiétez pas, Bon, on va vous passer. On va vous passer quelque chose en attendant. Bah, par exemple, la souris, les jeunes seigneurs.
Johnny marche sous la pluie, de Barbès à Pigalle en passant par Vichy. S'amuse comme des fous à tirer quelques coups, à deux sur un par mètre on traite l'ennemi.
On n'a pas besoin de rêve quand on est un jeune seigneur. Pas besoin de religion, plutôt païen que chrétien.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je passais par ta rue, j'ai un cadeau pour toi. Un tout petit parc-mètre arraché à la rue.
On n'a pas besoin de rêve quand on est un jeune seigneur. Pas besoin de religion, plutôt païen que chrétien. We'll be right back.
Alors, le but n'était pas forcément de passer le morceau en entier. Donc, Nabat, dernier appel au Floride, c'était le 21 novembre 2009. Donc, le morceau « Led a Bologna ». Il y avait aussi le morceau « Tempi Nuovi » qui avait été... Enfin, il y avait un extrait du concert de Nabat, donc « Tempi Nuovi » sur YouTube. Un morceau mythique, puisqu'en fait, le groupe démarre et se plante, et le public chante le morceau, et donc Steno, le chanteur de Nabat, dit aux musiciens de ne pas jouer en attendant le chant du public. Il faut écouter le morceau « Tempi Nuovi » pour comprendre. On écoute le groupe dont Stefano Harry parle, à savoir Où est-ce que je l'ai mis? Enfin, le groupe nantais Picasso y los Simios, que j'ai pu retrouver. Enfin, j'ai pu trouver un extrait. Voilà, Picasso y los Simios, le morceau c'est Monkey, c'est sur une compilation de l'association Les Rockeurs ont du cœur et Télé Nantes. My monkey, monkey, monkey. Speed, 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 scumming your speed, 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 scumming. It's really, really, really coming, it's really, really coming to you. My monkey, everybody needs someone, someone to love, someone to love, someone to love, someone to love. Then I go out through the jungle, yeah, I go out through the jungle. You say. I go out through the jungle. I go out through the jungle. Voilà, donc c'était Picasso y los Simios et on revient à l'interview de Stéphane Houari.
J'ai côtoyé pas mal de musiciens, de groupes. J'ai travaillé dans une salle de concert pendant longtemps, hein, qui était à la Laiterie, où là j'ai fait des affiches pour le festival des artefacts. Enfin voilà, c'est plutôt à Strasbourg, je dirais, que les choses se sont concrétisées qu'à Nantes. Nantes, j'étais chez mes parents, j'avais à peine le droit de sortir.
Non, la Laiterie, oui, j'y étais allé, mais moi, pour les concerts trash, death, etc., ouais, surtout. J'ai vu Cannibal Corpse, ouais, j'ai vu quoi. Il y avait des festivals, ça s'appelait le No Mercy Festival, ouais, donc avec... c'était six gros noms, quoi, genre Morbid Angel, Emperor, Immortal... Mais ça, c'est à la fin des années 90. Est-ce que vous avez illustré des fanzines musicaux? Donc, j'y reviens.
Alors, des fanzines musicaux...
Je pose plus à Strasbourg,
ouais,
qu'à Nantes.
Ouais, ouais. Bah, à Strasbourg, je faisais du fanzine. Hein. J'avais un premier fanzine, justement, avec notre bassiste, qui s'appelait L'Avenir Radieux. Donc c'était de la bande dessinée, puis on parlait de musique. J'en avais fait un autre après, qui s'appelait Caramel. Pareil, il y avait un peu de chronique de musique et puis de la bande dessinée. J'ai fait, surtout, comme je travaillais pour la laiterie, j'ai illustré le programme de la laiterie. J'ai fait des affiches pour le festival, des choses comme ça. Puis je faisais
c'est bizarre parce que L'Avenir Radieux, pour aller au du son immortel, ça fait un peu entre guillemets propagande très très à gauche.
Oui, je ne le cache pas. Oui, bien sûr.
Ça c'est fait. Alors, transition pour le morceau de Bravo. Est-ce que vous avez vu le film et la série aussi? This is England.
Oui, j'ai adoré. Ouais. Ouais, j'ai vu le film et puis j'ai découvert qu'il y a eu une série. J'ai découvert ça il y a un an. Elle a été diffusée intégralement sur Arte. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si les derniers commençaient à devenir un peu plus.
Bah justement, moi je préfère le film finalement parce que alors moi ce qui m'embête c'est Combo qui est envoyé à la mort alors qu'il est repenti à ce moment-là, déjà. Et puis au final, c'est Milky qui s'appelle, je crois. Enfin, il est le personnage du film et le personnage de la série, c'est presque le jour et la nuit.
Oui, tout à fait.
Il va avec la femme de son pote, il envoie l'autre qui s'est repenti et qui en plus a protégé justement l'actrice, c'est Vicky McClure qui joue aussi dans Line of Duty, mais je ne me souviens plus du personnage. Enfin voilà, c'est moi ça m'a déçu. Et puis le côté aussi on a l'impression que c'est le changement de mode, mais total. C'est-à-dire qu'au début, c'est des punks et des skins. Oui. Et puis après, c'est Manchester qui arrive. Et puis, c'est normal. Enfin, ça...
Alors, c'est pas Manchester, en fait. Ce que je pensais, c'est Madchester. C'est-à-dire le côté... comment il s'appelle le groupe c'est Stone Dragons ou je sais plus qui. Enfin, avec... c'est les Happy Mondays. Oh, je sais plus. Il faudrait que je vérifie. On va taper Manchester dans Google pour être sûr de tout ça. Oui, c'est bien les Happy Mondays. Voilà. Et voilà les Stone Roses et les Happy Mondays. Voilà. On va vous donner un aperçu de tout ça avec un aperçu musical.
Moi, je pense direct à... C'est quoi déjà?
Some brother today, and I don't dig what you gotta say.
Donc les Happy Mondays avec le danseur en plus. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout le look. Alors vous n'avez que l'audio, mais le look qu'ils avaient à l'époque. Et puis on va écouter les Soup Dragons aussi pour voir ce que ça donne. Alors, on est loin des Cockney Rejects, etc. Donc, ça donne quoi les Cockney Rejects ? Eh ben, ça vous donne ça, par exemple. Voilà, donc on va dire les Cockney Rejects, ça correspond à This is England, le film, enfin au niveau de l'ambiance, du climat. Bon, on pourra ajouter éventuellement un peu de ska, de Simmer Rip, etc. Et Happy Mondays, c'est un peu la fin de la série, pas du film. On revient à l'interview, s'il vous plaît.
Il tourne Kazakh comme ça.
Oui, je comprends cette déception. Moi, je l'ai ressenti, mais pas tout de suite. Je l'ai ressenti peut-être... je ne sais plus à partir de quel épisode, mais tout à coup, les personnages devenaient de plus en plus mainstream.
Oui.
Enfin, voilà, il y avait un truc qui devenait... Donc, où il y a le choc qui avait pu être le film, effectivement, là, il s'est dissous. Mais bien sûr, c'est un film qui avait été important, parce que, déjà, je m'intéressais à la culture skinhead, et je trouve que c'était... C'est un film qui, pour le coup, en parle plutôt bien. Donc, voilà.
Alors, pourquoi avoir choisi Gilbertin et son histoire et pas... Alors, on va... Parce que lui aussi, il était sur France Culture. Enfin, il y en avait deux sur France Culture. Il y a Farid.
Oui.
Et il y a Géno de l'Infanterie Sauvage qui, ça peut être une histoire aussi.
Oui.
Donc, pourquoi Gilbertin, Caméra CN, c'est pas Libéreur et Noir ou Ludwig?
Alors, puisqu'on parle de l'infanterie sauvage, eh bien, on va passer un morceau de l'infanterie sauvage. Et ce morceau-là, par exemple...
Les points levés, mais les points liés. Les points levés, mais les points liés. Quand tu m'en réponds, je me dévoile. Les points serrés, quand tu
fait briser ces enfoirés. Toutes les boîtes sont fermées. Quand on veut s'amuser, tout le monde nous bat dans les cafés. Dans la rue, dans la rue, combien sont-ils à étouffer? Nos messages à l'Élysée, combien sont-ils à étouffer? Nos messages de liberté, faites baisser les poings serrés. Bon, c'est foncé, point levé, top serré. Faites briser ces enfoirés.
On va passer au garage des milkshakes. The Milkshakes, Shimmy Shimmy, Pretty Baby en live en 84. Et je trouve que Pretty Baby rappelle vaguement le Brand New Cadillac d'un certain Vince Taylor. On revient à l'interview.
Et ou la souris déglinguée, ou. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis Sheriff, ouais. ETH,
oui, ça aurait pu être le premier. Bien sûr. Ou... Bien sûr. Pourquoi? Alors, bah, tout simplement parce que. L'histoire de Gilbertin, elle a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je l'ai découvert après qu'il se soit rendu, là où il y a eu un peu de médiatisation, justement, par le documentaire qu'avait consacré France Culture. C'est une histoire particulière, diffusée en deux volets le week-end. Il est encore en vie et il raconte, il se raconte et moi sa voix, ça m'a saisi parce que tout à coup c'est une voix extrêmement apaisée, très lucide. Et moi j'avais en tête Caméra Silence, les souvenirs que j'en avais, bon c'est pas cette voix-là quoi, c'était quand même, il y avait cette rage, et tout à coup... Cette voix qui revient comme ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter. Parce qu'auparavant, j'avais des envies de raconter ce qu'avait été le punk pour moi. C'était, mais je ne savais pas par quel bout le prendre, justement. Je ne savais pas très bien. Il me manquait l'histoire. Et là, je me dis, bah, c'est ça, l'histoire, c'est celle-là. Parce que donc, c'était l'occasion de raconter ce qu'avait été ce mouvement-là, d'une part, bien sûr. Au-delà de ça, ça correspond aussi à ce que je suis aujourd'hui. Il y a le rapport à la paternité, il y a... Et puis c'est un fait divers. Moi, ce qu'on n'a pas dit me concernant, c'est que je suis auteur de bande dessinée, mais je suis aussi et en grande partie illustrateur pour la presse. Je travaille pour différents quotidiens, hebdomadaires, mensuels, beaucoup par exemple pour Le Parisien, et mon boulot, ça consiste à illustrer des faits divers. Je suis devenu un spécialiste dès qu'il y a un truc un peu, un fait divers un peu sordide.
Un truc que j'ai appris hier, c'est hallucinant.
Donc voilà, on m'appelle pour illustrer des faits divers, et là, quelque part, cette histoire, c'est un fait divers. C'est un fait divers développé sur... Donc voilà, je me sentais aussi cette légitimité de me dire, voilà, ça, c'est des sujets que je sais traiter. Et voilà, tout simplement. Moi, ça, voilà, sa voix m'a touché, son parcours m'a touché. Je voyais la possibilité de faire quelque chose où on est dans l'univers du fait divers, un truc très noir, très polar, et en même temps raconter ce qu'a été la scène punk de l'époque. Donc tout ça, pour moi, c'était l'idéal, quoi. Ça rassemblait toutes mes envies à ce moment-là.
Moi, je me souviens d'une interview de Benoît Destrier dans un fanzine qui s'appelle Une vie pour rien. On lui posait la question. Qu'est-ce qui dégoûte ? Parce qu'il y avait plein de rumeurs. Comme ça, on est dans les années. Milieu des années 2000, je crois. Et il dit je sais pas, il y en a qui disent qu'il est en Amérique du Sud, il y en a qui disent qu'il est mort, etc. Donc c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai vu l'histoire qui est arrivée, je me dis mais c'est hallucinant. C'est hallucinant.
Bah oui, c'est hallucinant. Et je pense que c'est aussi là, maintenant, la réception du livre, hein, les témoignages. C'est toujours ça. J'entends les témoignages de personnes qui découvrent cette histoire. Parce que, évidemment, dans le milieu punk, l'histoire était connue. Et c'est pas le livre qui va leur apprendre quoi que ce soit. En revanche, il y a des gens qui vont découvrir cette histoire avec cette bande dessinée, mais ils sont tous stupéfaits. Et voilà, oui, elle a quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle parle au-delà, justement, du cercle des fans de punk rock.
Moi, ce qui m'a été...
Alors, on va écouter un Rien qu'entraînant de Camera Silence, justement. We'll be right back.
In less than a decade, house prices in the EU rose by 53% on average. Rents have also
Voilà un petit clin d'œil avec Cortato en la Calle. Donc un clin d'œil à Johnny et l'émission En la Calle sur Radio Béton. Puisque Johnny, je l'ai vu en sortant de la conférence donc de David Berruy et Stéphane Houari, donc qui avait lieu le jour d'après, c'est-à-dire le dimanche après l'interview. Donc on a longuement discuté de punk basque et de punk espagnol. Et donc, Cortatu aussi, parce que c'est de l'autre côté des Pyrénées et que c'est là où est parti Gilles Bertin. On revient à l'interview en allant faire les news.
Enfin, bon, c'est pas que la BD, mais c'est en général. Parce que moi, je pensais que Caméra, c'était connu que en France.
Oui,
c'est connu internationalement.
Oui.
Mais moi, il y a un type qui est un grec qui fait des bouquins sur le rock, le hard, le punk, qui cite le groupe. Je lui dis, mais comment tu connais ça? C'est connu. Ouais. Il y a un hommage par des groupes russes, un hommage par des groupes espagnols. Bon, espagnol, ça m'étonne pas, parce que des Sibelius, par exemple, ils en parlaient. Mais.
Oui, ça enregistre.
Normalement, oui. Oui.
C'est bon.
Il y a 40 minutes.
Ok. Oui, moi j'ai
et ça m'est déjà arrivé à un groupe.
Par contre, les chiffres qui avaient marqué sur l'enregistreur, ça n'avait rien à voir avec la réalité, parce que ça marquait 40. Enfin, il y avait un décompte de 40 minutes, alors qu'en fait, on en était à 23-24 minutes. Mais passons.
J'ai peut-être persuadé que ça enregistrait, et au bout de 20 minutes, j'en trouve rien du tout. Et ça m'a tué, ça. Mais j'ai tout rattrapé de mémoire, j'ai réécrit, enfin, quand j'ai fait l'émission. Mais... j'ai eu pas mal de surprises avec ces trucs-là. Ah oui, par rapport justement à l'histoire de Gilles Bertin. Est-ce que... bon, c'est périphérique comme question, mais est-ce que vous êtes intéressé justement à la scène punk, enfin, rock en général, espagnole et portugaise, ou vous avez...
Non. Ouais, non, j'ai pas vraiment creusé ça. C'est pas une scène que je connais très bien. Je voulais pas trop m'éparpiller... Je me suis concentré sur ce qu'on appelle la Ruta Destroy, enfin ces boîtes de nuit qui diffusaient de la musique à l'époque et de façon enfin, assez pointue. Donc là, pour le coup, j'ai un peu essayé de réunir de la documentation, réunir des témoignages de gens qui ont fréquenté toutes ces boîtes de nuit. Mais après, la scène rock... Non, pas vraiment. Non.
Je suppose aussi, par rapport à son histoire, que dans le bouquin, il ne en parle pas beaucoup, parce que de toute façon, lui, il devait être incognito aussi.
Oui.
Je pense qu'il n'allait pas dire, tiens, je vais faire les groupes punk venaient là parce que moi je connais.
Ouais, je pense qu'il y a le mythe de lui. Oui, lui aussi s'est volontairement un peu éloigné de toute cette scène.
Alors, vous dites que c'est un grand fan de BD.
Oui.
Alors, à part Fuite Glaciale, justement, qu'est-ce qui le branchait?
En fait, on avait parlé de Torpedo parce que Torpedo, c'est le nom qu'il a donné à son magasin de disques à Lisbonne, et c'est un héros de bande dessinée argentin qui est assez génial. Moi, j'adore, hein, c'est vraiment une bande dessinée qui m'a marqué, qui est très assez violente, très politiquement incorrecte.
Ça date de quand?
Ça date des années 80, 60, ouais, 80.
Ah oui, donc contemporain.
Oui, complètement. C'est une bande dessinée avec un ton très noir, très polar. Donc on a parlé de ça, on a parlé de Métal Hurlant.
Alors on va s'arrêter là pour l'interview, donc la suite la prochaine fois. On va peut-être faire les news. Et ben, les news, on va faire ça sur... est-ce qu'on fait ça sur La Caillou ou on reprend... Allez, on va reprendre Fishbone. Hein. On fait les choses comme il faut. Fishbone Party at Ground Zero. S'il vous plaît.
Quand un smartphone.
Ah là 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 là. Ah là là. Alors, Party at Ground Zero qui a été repris il y a 10 ans par des collégiens. C'est pas mal le morceau, c'est pas mal. Allez, là on va écouter la version originelle. Fishbone, donc, qui, j'ai vu qu'il y a un live aussi à KEXP. C'est mieux si on met le son. Allez, Fishbone. Allez, c'est parti pour les news. Alors, triste nouvelle, on apprend la mort de Chris Dreja, qui était le guitariste rythmique, puis le bassiste des Yardbirds. En plus, c'était un cofondateur du groupe. Il avait 79 ans, qu'il repose en paix. On reste dans les nouvelles tristes, puisque Lou Kohler, donc chanteur de Sick of It All, annonce que son cancer de l'œsophage est revenu, donc il y avait une rémission. Donc, on nous souhaite le meilleur. Le combo black metal norvégien 1349, hein, je ne sais pas le dire en norvégien, sortira un album live Winter Mass chez Season of Mist le 28 novembre 2025. Donc c'est un concert enregistré à Oslo en 2021. Death Yell, le groupe de death metal chilien, sortira lui son nouvel album Demons of Lust le 28 novembre chez Hell's Headbangers Records. Et sinon, quelques sorties Memento Mori. Donc, pour le 20 octobre, Memento Mori, le label espagnol spécialisé Death Metal. Tout d'abord, le groupe japonais Burden of Despair. Le morceau, c'est l'album se nomme Confutatis. Le groupe américain Cadaverus Odor, Primordial Stench. Et le groupe américain Thaumaturgy, Pestilential Hymns. Donc ça sortira le 20 octobre. Et par ailleurs, Memento Mori a signé le groupe australien Malignant Aura. un morceau inédit de T-Rex, I'm Dazed, écoutable sur YouTube, et nous, on va le faire tout de suite. Alors, c'est un morceau qui rappelle la période 74-75 où il oscillait entre donc soul funk un peu psychédélique et donc la suite du glam. Je trouve que il a les défauts de l'époque, c'est-à-dire que je pense qu'il est un peu trop pas indulgent, mais il croit un peu trop en lui, je trouve, hein, parce que le riff de les petits riffs de solo, pour moi, ça devrait être plus appuyé, et voilà, enfin c'est il en fait un peu trop, je trouve. On termine avec les Yardbirds, Evil Heart of You. Et donc, Chris Dreja repose en paix.
Just the same, and I want.